Une conversation au salon. La scène se passe dans le salon de Madame de Nédélec, mère de Françoise. Quand le rideau se lève, Justin est seul.
Ah, bonjour, Justin. Je suis la mère de Françoise.
Je suis très heureux de faire votre connaissance, madame.
Vous m'excuserez, j'espère, de n'être pas allé à votre rencontre tout à l'heure. La nouvelle bonne qu'on vient de m'envoyer manque d'expérience et n'ose pas lever le doigt sans que je sois là pour lui donner des ordres. Il y avait justement une petite crise à la cuisine quand vous êtes arrivée, parce qu'elle ne savait pas faire marcher le fourneau à gaz.
Françoise me disait qu'on a des difficultés actuellement pour se faire servir.
C'est malheureusement trop vrai. Comme je ne vois pas Françoise, je suppose qu'elle est encore occupée à sa toilette. Je sais qu'elle voulait mettre sa nouvelle robe pour vous éblouir ce soir. Une nouvelle robe est si rare dans sa vie. Pauvre chérie. Mes enfants ne connaissent pas la vie facile de mon enfance. Enfin, celle que vous connaissez encore dans la libre Amérique. Mais ne parlons pas de cela. Racontez-moi plutôt votre promenade de cet après-midi. Qu'avez-vous vu de notre belle ville de Paris?
Tout et rien. Nous avons fait comme si je n'avais qu'une seule après-midi à y passer. Ce qui n'est pas vrai, car j'ai des semaines devant moi. Je voulais tout voir en une seule fois, sans rien approfondir. Voulez-vous que je vous raconte notre itinéraire?
Volontiers. Je vous écoute avec plaisir.
Après avoir quitté mon hôtel rue Molière, nous avons pris par des rues étroites. Nous avons traversé, au pas de course, le jardin du Palais Royal. Et nous avons fait halte au beau milieu de la place du Carrousel pour jouir de la perspective extraordinaire. Il faisait un temps superbe. Autour de nous, en forme de fer à cheval, il y avait les ailes de ce vaste édifice qu'est le Louvre. À l'ouest, à travers le jardin classique des Tuileries, avec ses statues et ses parterres pleins de fleurs, on voyait d'abord la place de la Concorde avec ses fontaines et son obélisque au centre. Plus loin encore, toujours en ligne droite, c'était l'avenue des Champs-Élysées, qu'on voyait à peine naturellement. Et tout au bout se dressait majestueusement sur la hauteur l'arc de triomphe de l'Étoile.
Oui, c'est là la plus jolie perspective de toute la ville. Le Paris moderne s'évanouit dans les lointains de cette perspective classique. Évidemment, tout le Louvre, et notamment les parties qui entourent la place du Carrousel, ne datent pas du XVIIe siècle. Mais on ne s'en douterait pas. De même, les façades classiques à arcades de la rue de Rivoli ne datent que des premières années du XIXe siècle. Mais elles ressemblent à celles plus anciennes de la place Vendôme que vous avez vue sans doute.
Non. Françoise m'a seulement fait remarquer la colonne Vendôme qui se voit très bien des Tuileries. Qu'est-ce que c'est au juste que la place Vendôme?
C'est une grande place octogonale, bordée de bâtiments modernes ou modernisés, mais dont les façades sont l'œuvre de Mansart, architecte de Louis XIV. Mais où êtes-vous allé ensuite?
Place de la Concorde. Sans contredit, la plus belle place du monde. Puis, demi-tour. En passant devant la Chambre des députés. Peut-être dois-je dire maintenant l'Assemblée nationale. Et en suivant le quai jusqu'à l'Institut. Françoise m'a expliqué quelque chose que j'ignorais. C'est que ce qu'on appelle couramment l'Institut est l'Académie des sciences morales et politiques. Et que l'Institut de France, proprement dit, comprend aussi la célèbre Académie française, fondée par Richelieu en 1634, ainsi que trois autres académies un peu moins connues.
Vous savez que pour un Français, pour qui l'activité intellectuelle prime tout, être élu membre de l'Académie française est le plus grand honneur possible. C'est ainsi que la France honore ses grands intellectuels et écrivains. Évidemment, je sais que le choix de l'Académie n'a pas toujours été heureux et que certains de nos grands auteurs n'en ont jamais fait partie.
En effet, je crois qu'André Gide, bien qu'ayant reçu le prix Nobel, n'est pas membre de l'Académie.
C'est sans doute qu'il n'y tient pas. Les honneurs ne lui disent pas grand-chose.
Par contre, il y a l'exemple de Napoléon, je crois, qui, pendant la campagne d'Égypte, signait sa dépêche « Général en chef et membre de l'Institut ».
Avez-vous traversé le pont des Arts qui se trouve devant l'Institut?
Voulez-vous dire cette passerelle? En effet, la vue est superbe, n'est-ce pas? Puis nous avons retraversé la Seine par le pont Neuf. C'est le pont le plus ancien de Paris, n'est-ce pas?
Oui, il date de la fin du XVIe siècle.
Après avoir admiré les deux maisons du temps de Henri IV, qui se trouvent au bout de l'île de la Cité, nous avons pénétré dans la cour du palais de justice, non sans avoir préalablement examiné les vieilles tours gothiques du côté nord, vestiges du château fort royal. Et nous avons visité la Sainte-Chapelle de Louis IX. Le soleil éclairait les vitraux quand nous sommes entrés. Jamais je n'ai rien vu d'aussi beau, me semble-t-il.
Quand vous verrez la cathédrale de Chartres, où les bleus éclatants des vitraux font contraste avec l'obscurité de la nef, et où les vastes dimensions ajoutent au caractère irréel de l'endroit, je crois que vous l'aimerez encore mieux que la Sainte-Chapelle. Avez-vous visité Notre-Dame?
Oui, tout de suite après la Sainte-Chapelle. Françoise m'a un peu gâté ma visite en parlant de Chartres. Il paraît que les statues du porche ne sont pas authentiques, que les vitraux sont moins beaux, et je ne sais quoi encore. Comme c'était ma première cathédrale gothique, j'étais néanmoins très impressionné. Nous sommes même montés dans une tour pour profiter de la vue. De là, on peut voir tous les monuments de Paris. C'est heureux qu'il n'y ait pas de gratte-ciel comme à Anvers. Cela gâterait tout.
Il y a de grands bâtiments qu'on pourrait presque appeler des gratte-ciel, mais en dehors de la ville, près du Bourget.
Comme j'avais voulu voir la petite église de Saint-Julien-le-Pauvre, qui, d'après Françoise, est plus ancienne que Notre-Dame et qui était visible du haut de la cathédrale, nous avons de nouveau traversé la Seine pour la voir. Heureusement que la Seine n'est pas très large. Mais j'abrège. Ensuite, ce furent les ruines gallo-romaines des Thermes, la Sorbonne et le Collège de France. Puis, la façade gothique de l'hôtel de Cluny. Puis de nouveau, traversée de la Seine, en passant par la pittoresque île Saint-Louis, où nous nous sommes arrêtés devant l'hôtel Lauzun, décoré, m'a-t-on dit, par les mêmes artistes que le château de Versailles. Le but de notre promenade était le Marais.
Pourquoi voir le Marais quand, à deux pas de la Sorbonne, se trouvaient le Panthéon et le jardin du Luxembourg?
Je sais très bien que le Marais est considéré comme malsain et qu'on est en train de le démolir pour cette raison. C'est pourquoi j'étais si pressé de le voir, comme s'il allait disparaître du jour au lendemain.
Il est difficile de s'imaginer que ce quartier délabré était le quartier aristocratique au XVIe et XVIIe siècle. La place des Vosges, l'ancienne place royale construite par Henri IV sur l'emplacement d'un ancien palais, dans la cour duquel le roi Henri II a péri dans un tournoi. La place des Vosges, dis-je, a un air très coquet avec ses vieilles maisons Renaissance en briques.
Oui, mais j'aime autant l'imprévu du Marais. J'aime pousser une vieille porte cochère pour me trouver soudain dans la cour d'un vieil hôtel de l'ancienne noblesse, tel que l'hôtel Lamoignon, l'hôtel de Sully, l'hôtel de Beauvais, l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, sans parler de l'hôtel de Sens avec ses tourelles gothiques.
Oui, tout cela est très curieux. Mais avez-vous vu au moins le Paris des grands boulevards?
Oui, de la Bastille, nous avons pris le métro jusqu'à l'Étoile pour nous replonger dans le Paris moderne, le Paris des grands boulevards et des Américains.
Évidemment, les Anglo-Saxons sont à éviter si vous voulez perfectionner votre français.
Je me suis pourtant conduit comme un Américain dans le métro. Nous sommes descendus vers le quai quand le train y était déjà. Première gaffe, j'ai essayé de pousser le portillon automatique qui nous barrait l'entrée du quai. Et pourtant, il y avait un écriteau, comme Françoise me l'a montré ensuite, nous avisant qu'il était inutile de pousser. Elle s'est moquée de moi. Le train parti, le portillon s'est rouvert pour nous laisser passer. Deuxième gaffe, j'ai constaté que pour descendre du train, les voyageurs ouvraient eux-mêmes les portes en tirant très fort. Une fois dans le train, je me suis retourné et j'ai fermé la porte. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais fou. Et j'ai vu un autre écriteau qui disait « La fermeture des portes est automatique ». Derrière moi, j'ai entendu Françoise qui s'esclaffait. Elle m'avait laissé faire exprès.
Donc, vous allez garder un mauvais souvenir de votre premier voyage en métro.
J'avoue que je n'aime pas me faire remarquer. Mais ça n'a pas été si mal que ça. Deux choses m'ont frappé dans le métro. D'abord, le plan très détaillé du réseau du métro. Françoise m'a appris, par exemple, qu'ayant constaté que le terminus de la ligne passant par l'Étoile était le pont de Neuilly, il fallait suivre les écriteaux et flèches disant « Direction pont de Neuilly » pour arriver au quai.
Vous avez bien retenu votre leçon. Mais quelle a été votre deuxième impression?
Eh bien, celle d'avoir voyagé dans un bocal, puisque les fenêtres des voitures sont si larges. Et le bocal éclaire en passant les côtés du tunnel, de sorte qu'on peut lire « du beau, du bon, du poney » qui se répète à l'infini.
Vous avez vu, naturellement, le tombeau du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Vous avez admiré la majestueuse avenue des Champs-Élysées. Et puis après?
Nous voulions nous promener jusqu'au Trocadéro, mais les jambes nous rentraient dans le corps. Nous avons fini par reprendre le métro. Au palais de Chaillot, très style moderne, nous avons joui du panorama sur le champ de Mars, avec la vieille tour Eiffel au centre. C'est très beau, mais cela fait un peu décor Hollywood. Tandis qu'au Marais...
Mais vous y tenez, à votre Marais. Ah, voilà Françoise qui est prête. On va pouvoir dîner maintenant. Vous devez avoir faim.